Ce matin, le sujet, c'est vous arrive-t-il de demander pourquoi? Vous arrive-t-il de demander pourquoi? Hein? Un peu comme cet homme-là. Pourquoi? Quand on a des problèmes, quand on a des interrogations, qu'est-ce qu'on doit faire? Je chercherais des chants, Marlène, vous en avez un beau chant sur pourquoi? Je chercherais des chants sur YouTube, là, et puis j'en ai trouvé un, mais ce n'était pas le même, c'est deux beaux chants. Quand ça nous arrive des questions même, des interrogations, qu'est-ce qu'on fait? On doit se tourner vers Dieu. Hein? Dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, et à ce moment-là, le Seigneur va nous donner une direction. Donc, c'est à nous autres à suivre la direction que le Seigneur nous a donnée. Parce que si on ne la suit pas, si on ne l'aime pas, ça risque d'aggraver notre situation. Ça risque de nous amener dans une dépression, une morale à terre. C'est important de suivre la direction que Dieu nous donne dans les pourquoi. Puis je vous dis, il y en a des pourquoi dans la vie. Chacun de vous autres, un jour ou l'autre, vous êtes posé la question, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Hein? Fait qu'on va regarder ça ensemble. Le Seigneur va nous éclairer, il m'a éclairé, puis on a court de besoin. Fait qu'il va nous éclairer pour qu'on puisse recevoir sa direction. Un gros merci, Seigneur, encore une fois, de nous donner ta parole, qu'on puisse comprendre, Seigneur, lorsqu'on s'interroge, pourquoi que ça arrive, qu'on puisse, Seigneur, recevoir une direction de toi, ou qu'on puisse tout simplement, Seigneur, te faire confiance si tu restes silencieux. Parce que tu sais ce que tu fais, Seigneur. Dirige-moi à travers ce message, qu'on comprenne, Seigneur, par ton esprit, viens nous éclairer. Je t'en remercie. Amen. On va commencer dans le psaume 10, le verset 1. Psaume 10, le verset 1, moi, je vous le lis dans la Bible français courant. C'est de David. On voit qu'il y en a des pourquoi. Seigneur, pourquoi, c'est David qui dit ça, là, pourquoi te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu quand la détresse est là? Et au verset 13, pourquoi le méchant se moquerait-il de toi en se disant que tu vas le laisser faire? Pourquoi? Hein? Si on voit dans ces versets-là, que vous lirez, vous pourrez tirer ça, David, il ne comprenait pas pourquoi dans la situation, Dieu s'était éloigné. Il dit, il me semble que le méchant a agi à sa guise. Pourquoi? Pourquoi? Mais si on regarde ça de près, David, il agissait dans les émotions. C'était dans ses émotions qu'il posait ces questions-là. Puis les émotions, il est en train de l'égarer. Vous savez, les émotions, ça, si on pose des pourquoi, si on agit dans les émotions, ça va nous égarer et ça va nous épuiser aussi. Pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi Dieu ne m'a pas empêché ça? C'est dès que ça arrive. Mais on voit dans de David, quand il posait ça, là, ça l'avait empêché de voir la main de Dieu agir dans cette situation. Dieu agissait, mais c'est parce que dans ses émotions, il voyait peu. Souvent, on pose des pourquoi, mais c'est des pourquoi émotionnels. Dieu agissait, Dieu prenait soin, et il voyait les méchants agir, mais il y avait un plan dans tout ça. Et David, émotionnellement, lui, pourquoi que ça arrive? Ça vous aurait dit dire des pourquoi émotionnels? Moi, ça m'est arrivé. Les pourquoi sont une réaction humaine, fréquente, face à l'adversité. Ça va mal, on dit pourquoi? Dans la souffrance ou dans les situations difficiles. La question pourquoi n'est pas seulement de nos jours. C'est pas qu'en 2025, le monde se demande pourquoi. Hein? Dans la Bible, plusieurs sont interrogés devant des incompréhensions. On ne comprend pas, Seigneur, pourquoi que ça arrive, ces affaires-là. Pourquoi? On voit quatre personnes, en gros, là, vite, rapidement, des gens qui sont interrogés parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas pourquoi ça arrivait. Moïse, entre autres, il dit, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Pourquoi tu m'affliges? Et pourquoi ne t'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple-là? On sait Moïse, il guidait le peuple dans le désert. Seigneur, pourquoi je suis en train de m'épuiser? C'est trop lourd sur mon dos. Je ne peux pas supporter ce peuple-là. C'est trop lourd. Mais justement, on a un verset, c'est justement, et là, Matthieu 11, 28, hein? Moïse avait oublié de s'appuyer sur Dieu. Il pensait être capable, par ses propres forces, de conduire tout ce peuple-là dans le désert. Matthieu 11, 28 nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et Moïse qui est chargé, et fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. » Dieu a parlé à Moïse, et on sait qu'il y a eu quelqu'un qui l'a aidé dans sa situation, mais souvent c'est ça. On veut faire l'œuvre de Dieu par nos propres forces. Puis je ne suis plus capable. Pourquoi? Mais souvent, souvent, c'est ça. Elkana demande à sa femme Anne. Ça vous dit quelque chose, Elkana, ça? La mari de Anne, elle était à vouloir avoir un bébé, mais elle n'avait pas. Donc, il demande à sa femme, pourquoi? Ça vous arrive-tu des fois de demander à votre femme, pourquoi? Hein? Lui, il demande à sa femme, pourquoi pleures-tu? Pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi ton cœur est attristé? On voit ça dans 1 Samuel 1, 8. C'est sûr que Elkana, il avait de la compassion dans son cœur quand il demandait cette chose-là. Mais comme beaucoup d'hommes, moi-même, le premier, on manque de compréhension devant les problèmes de nos femmes. Êtes-vous d'accord, messieurs? On ne comprend pas, on n'a pas la même façon de voir la vie souvent qu'une femme. Et oui, il voulait la consoler, mais il aurait fallu qu'elle crie bien avant ça. « Pourquoi tu manges? Pourquoi tu... » Il aurait fallu qu'elle ait été voir le Seigneur avant, hein, demander la direction de Dieu. Ça nous arrive-tu des fois qu'on est dur un peu envers nos femmes? Hein? Tu parlais de votre cœur. Là, ma femme me demandait de ne pas parler. Habacuc, il dit, pourquoi me fais-tu voir l'iniquité, le péché qui est autour de nous autres partout? Et contemples-tu l'injustice? Il répète encore, pourquoi l'oppression, pourquoi la violence est devant moi, les querelles, la discorde, puis toutes ces choses-là? C'était comme ça de nouveau. Hein? Il dit, pourquoi que ça arrive aux États-Unis? Pourquoi ça arrive, puis toutes ces choses-là, la violence? Encore un qui est mort cette semaine d'une balle. Pourquoi toutes ces choses-là? Mais avec eux, il s'est tourné vers Dieu et Dieu lui a donné des réponses. C'est ça qu'il faut faire dans la vie. C'est ça qu'il faut faire dans la vie. Une dernière, pour ça, Joseph. Joseph, devant la famine qu'il y avait dans le pays, on sait qu'il y a eu une grosse famine, les gens ils sont venus à lui pour le voir. Puis ils ont dit, « Donne-nous du pain. Pourquoi mourions-nous en ta présence? Car l'argent manque. » Ça, vous verrez ça dans Genèse 47, 15. Pourquoi l'argent manque? Ça vous dit, oh, mon Dieu, c'est cette question-là. Pourquoi, Seigneur, j'ai plus d'argent? Pourquoi? Oh, ça vous a jamais arrivé, hein? Ça m'est arrivé. Pourquoi, Seigneur, qu'il manque d'argent? Pourquoi? Puis il y en a qui pleurent. La chanson que je voyais sur le radio, il y a une petite madame, la pluie tombait en plus. Là. Elle pleurait, mon ami. Puis il y en a qui sont de même, hein? Et si la pluie tombe pas trop haut sur toi, là, c'est un peu exagéré, là. Mais on se demande pourquoi, Seigneur, j'ai plus d'argent. Ça n'arrive plus, hein? Dieu, on voit, si vous lisez dans l'histoire de Joseph, on sait que Dieu a montré comment agir, hein? Il a fait économiser, il a fait remplir des greniers pour le temps de la famine. Et avec ces économies-là, bien, ils ont pu passer à travers. Dieu, des fois, c'est ça qui nous fait comprendre. Ça va bien dans ta vie, là. Tu fais de l'argent, mais économise. C'est ça, j'ai dit à un monsieur qui vient souvent chez nous, qui expliquait la cigale et la fourmi. Tu sais, il gaspille beaucoup, beaucoup de monsieur. Et j'ai dit, il faut que tu économises. La cigale et la fourmi, rappelle-toi de cette histoire-là. Ces questions, et pourquoi, ont préoccupé les croyants à travers les âges. Nous désirons tous avoir une vie que tout va bien. On voudrait tout un gars bien. Hein? Mais nous oublions que Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous allez en avoir. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Dieu nous a mis au courant qu'on allait en avoir. Il ne faut pas se surprendre. Il faut se rappeler que Dieu est un refuge pour nous autres. Chacun connaît son lot de difficultés et de chagrins. Tu n'es pas tout seul. Tu sais, quand ça nous arrive, ça, on dirait qu'on est tout seul. Pauvre petit de moi, hein? Je suis tout seul à souffrir. On n'est pas tout seul. Tout le monde connaît le chagrin, la difficulté. Certains ont parfois traversé des épreuves pendant des années avant de voir le plan de Dieu se réaliser dans leur vie. Quand je regardais ça, je pensais, posais la question, c'est qui dans la Bible qui a souffert le plus longtemps? Jérémie, c'était un des prophètes qui a souffert le plus longtemps dans la Bible. 40 années. Il y a 5 rois méchants, je pourrais dire, qui ont passé durant son ministère. Et il a goûté à plein. Et ça, il n'a pas vu toujours le plan de Dieu se réaliser. Ça peut durer longtemps. Même aussi, si Dieu nous fait connaître pourquoi c'est arrivé, Dieu peut nous le dire. C'est pour ça que ça t'est arrivé dans ta vie. Des fois, on est insatisfait. Ce n'est pas la réponse qu'on aurait voulu entendre. J'aime pas cette réponse-là, Seigneur. Malheureusement, ça nous arrive. Hein? Paul il dit au Seigneur, il dit, Seigneur, enlève cette écharpe dans la chair. Vous avez eu une écharpe dans la chair? Ça fait tout un mal. Ça fait tout un mal, hein? Tant qu'elle est là, ça fait tout un mal. Ça n'arrête pas. Tic, 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 tic. Paul dit, ça fait tout un mal, Seigneur. Enlève cette écharpe-là dans la chair. Et le Seigneur a dit, ma grâce te suffit. Ça veut dire que ça lui a fait mal toute sa vie. Toute sa vie, ma grâce te suffit. Sans ça, Paul aurait pu s'égarer. Il a laissé l'écharpe dans la chair. Essayez de vivre une semaine avec une écharpe dans la chair. C'est vrai que ça fait mal. Un moulin, un coup, il y a un monsieur qui s'était rentré une grosse écharpe sur le slip. Elle avait traversé les deux doigts. Là, il vient de voir, il dit, enlève-moi ça, enlève-moi. Je ne trouve pas ça. J'avais suivi des cours de premier soir, puis il vient de voir dans ce temps-là. Mais ça fait mal. Tu ne veux pas la laisser là. Mais des fois, on a des douleurs qui vont rester parce que Dieu dit, ma grâce te suffit. Parfois, c'est comme ça. Vous savez, il n'y a rien de mal à se poser des questions. À poser des questions à Dieu, là, il n'y a rien de mal. Elles sont importantes pour le Seigneur. Cela nous permet de nous adresser à notre Papa Céleste, de lui ouvrir notre cœur pour qu'il nous éclaire dans notre situation et pour qu'on réfléchisse aussi à la vie. Dieu a un plan qui est parfait. Il s'agit de le laisser faire, faire confiance au Seigneur. Matthieu 14, 22 et 24. Matthieu 14, 22 et à 24. Aussitôt après, c'est Jésus, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut envoyé, ils montèrent sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque était déjà au milieu de la mer. Et regardez ce qui se passait. était battue par les flots, car les vents étaient contraires. Ici, on peut se poser la question, pourquoi Jésus a-t-il envoyé ses disciples sur la mer? Une bonne question. Pourquoi qu'ils ont envoyé sur la mer? Ils savaient ce qui allait arriver. Hein? Pourquoi qu'ils a-t-il envoyé dans la tempête? C'est même écrit, il les obligea même à monter dans la barque. Il semble donc que les disciples ne voulaient pas monter. Mais Jésus me dit, montez dans la barque. Pourquoi qu'il a fait ça? Jésus est-il méchant? Jésus serait-il méchant? Il savait qu'une tempête allait arriver, là. Il savait tout ça. Il dit, envoyez monter. Hein? Il les obligea. Dans le contexte, en plus, si vous lisez tout ça, là, tout le monde était excité. Tout le monde voulait garder Jésus, car il venait de nourrir 5000 personnes. Hey, tout le monde était content. Jésus, 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 hein? Elle criait. Et Jésus était populaire. Il voulait même le faire roi. Jean 6, 15, vous lirez ça. On va l'avoir comme un roi. C'est quelqu'un qui nous nourrit. Hey, on veut le garder, celui-là. On ne l'offre pas. Hein? Il est meilleur qu'Hérode. Non, lui, on va le garder. Lui, on va le garder. Tout va bien. Pourquoi Jésus envoie ses disciples sur la mer? Un beau pourquoi. Jésus ne se laisse pas influencer par la popularité du monde. Ça ne l'influence pas. Quelqu'un a dit, les héros d'un jour sont les condamnés du lendemain. Les autres ont dit, tu portes un héros d'un jour, après ça, l'autre était un zéro. Hein? Une journée, tu es un héros, le lendemain, tu es un zéro. C'est comme ça partout dans le monde. Dans le monde du sport, c'est le même aussi. Et là, ils viennent d'avoir un nouveau joueur, les Canadiens. Waouh! Ça, c'est la vedette. Hein? Là, on a payé un gros prix. Oui, c'est de la coupe. Ah, ils voient de la coupe. Mon gars, il aime bien là, OK, oui, puis quelqu'un nouveau, il voit de la coupe tout de suite. C'est tout de suite, on l'a, la coupe. Mais au bout de 6 mois, ce qu'ils font, ils veulent les changer. On n'est pas bon. On va les changer. C'est vous? Héros d'un jour, un zéro le lendemain. C'est le même dans la politique. Ah, lui, là, lui, bon. Lui, bon, là, on va le changer. Les actions arrivent. Hein? C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a une grande instabilité dans les relations humaines. On sait que plus tard aussi, là, vous l'avez fait Jésus roi, mais plus tard, qu'est-ce qu'ils ont crucifié la foule? Ils ont dit, crucifie-le. Ils ont crié, crucifie-le. Puis les disciples étaient obligés de se cacher de cette même foule-là. Vous savez, aujourd'hui, tu es un héros, demain, tu peux être un zéro. Il ne faut pas se laisser contrôler par la foule. Ce n'est pas la popularité et le succès aussi qui vont transformer à l'image de Jésus. Les tempêtes sont plus efficaces. C'est les tempêtes qui aident aux arbres à se développer, à développer des racines. Quand on voit les arbres faire ça, même, tu dis, hey, pour lui, il va casser. Hein? Mais ça l'aide. Il se met des racines. Puis c'est les tempêtes de la vie aussi qui nous aident à nous enraciner dans la foi. Si on n'aurait pas de tempête, le Seigneur nous a dit qu'il allait y avoir des tempêtes. Fait qu'il y en aurait des plus petites pour qu'on se fasse des racines. Mais que la grosse arrive, on soit prêt à affronter la grosse. Donc, les épreuves peuvent nous apprendre que sans Dieu, nous ne sommes rien. Jésus nous rappelle, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Souvent, le succès va nous éloigner de Dieu. Pourquoi Jésus a-t-il permis la tempête? On revient là-dessus. Mais elle n'était pas juste météorologique. Hein? Elle n'était pas juste une tempête de pluie. Mais elle était aussi spirituelle. Jésus voulait que leur foi grandisse. Hein? Quand ils ont vu Jésus marcher sur l'eau, quand ils ont vu que Jésus qui a arrêté la tempête, le verset 33 nous dit, ils ont cru en Jésus. C'est là que leur foi a grandi beaucoup. Quand ils ont vu ces signes-là, wow, qui peut faire une affaire demain, si ce n'est Dieu? Là, ils ont cru en lui. Voyez-vous? Mais ça prenait des tempêtes pour qu'ils en viennent là. C'est marqué au verset 24 que les vents étaient contraires. Tout était contraire pour les autres. Il y avait des grosses vagues. Vous devez essayer de ramer dans des grosses vagues. On était juste sur un coup au lac Frontière, puis c'est un lac d'habitude qui est calme. Là. Et puis ça ne prend pas des grosses vagues, vous dites, pour nous arrêter, nous ralentir. Il y avait la noirceur, on ne voit rien. À l'époque, là, il n'y avait pas de grande lumière. Hein? On ne voit rien. Il ne savait pas juste qu'il n'y avait pas non plus de phare au bord pour se diriger. Les vents étaient forts, puis en plus, ils étaient loin de la terre. Ils étaient au milieu du lac. Ça brossait. Tout était contraire. Est-ce que vous n'avez jamais eu des sentiments que tout était contraire dans votre vie? Tout va mal. Seigneur, j'essaye. Puis si tout va mal, plus que j'essaye, plus que ça va mal. Vous devez arriver, ça. Je me sens que je ne suis pas capable de m'en sortir. J'essaie, puis je ne suis pas capable de m'en sortir. Peut-être que vous avez perdu votre job. Hein? Tu avais une job qui est peut-être trop payante, mais tu viens de la perdre. Seigneur, pourquoi? Hey, j'ai des paiements, moi, là. J'ai une maison payée, j'ai une auto. Pourquoi que ça arrive, Seigneur? Ou bien non, vous faites un petit voyage après ça, et vous pognez de la gastro qui dure 3 jours. C'est drôle, hein? Vous pouvez pogner de la gastro. Ben, je vous parle de ça parce que je sais quelqu'un de poigné. Ouais. 3 jours de gastro. Hein? Wow, il me semble qu'en plus, je perds ma job et 3 jours, ça ne va pas bien. Là, tu arrives au parking, au centre d'achat. Tu dis, moi, je ne pars jamais à l'aéroport. Hein? Moi, je pars toujours au Mohawk. Ben, ouais, ma femme, elle aime ça. Elle dit, j'aime ça, parfait. Mais si tu le mets trop proche, il y a trop de monde, hein? tu vas te faire bosser. Fait qu'elle part tout le temps bien loin. Là, tu sors de ton chambre de ta coupe, ta gare, il y a un beau spectre que t'es pas si ton corps pareil. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi que ça arrive, Seigneur? Quand tu rentres chez vous, le livreur d'Amazon y arrive, ton chien sort, puis mort le livreur d'Amazon. Une belle journée. Hein? Pourquoi, Seigneur, le livreur n'est pas de bonne humeur? Vous savez, ça ne va pas arriver chez nous, ça. Le livreur n'est pas de bonne humeur. Pourquoi, Seigneur? Matthieu 14, 25, dans la Samar, on voit pour les disciples. Il est écrit, vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Voyez-vous? Comme les disciples dans l'épreuve, parfois on se demande, qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Je ne passerai même pas à travers ça. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il faut toujours se rappeler ça. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il faut lui faire confiance. Jésus n'avait jamais perdu de vue ses disciples. Au moment que lui avait choisi, il intervient dans leur détresse. Au moment que lui a choisi, le Dieu de l'impossible veillait toujours sur les autres. On a le Dieu de l'impossible, nous autres. Tu dis, c'est impossible, m'en sortirai pas. Rappelons-nous, nous avons le Dieu de l'impossible avec nous autres. Si vous dites, m'en sortirai pas, c'est impossible, pensons ça. Avec Dieu, les situations les plus difficiles se transforment. Au lieu de regarder la tempête, ranimons notre foi en regardant à Jésus. Paul a dit, je peux tout par celui qui me fortifie. On peut dire la même affaire, toi aussi, hein? On peut dire la même affaire. David a dit, quand je suis dans la crainte, ça y arrivait, en toi je me confie. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume 4, verset 8. Donc, c'est David que ça allait mal, il pouvait s'endormir en toute sécurité. Pensez-vous qu'on peut faire pareil? David dormait, il ronflait comme un bébé. Je ne sais pas s'il avait le pouce en bouche. Et il s'endormait. Pas de problème, Dieu est là. Vous savez, si je persiste, si on persiste à demander pourquoi, cela va nourrir un sentiment de reproche envers Dieu. C'est là qu'il faut faire attention. Parce que si on persiste à dire pourquoi, c'est pas juste, Seigneur, ce qui m'arrive. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur, tu n'étais pas là dans ma souffrance, quand j'étais à l'hôpital? Pourquoi tu n'étais pas là? Si je médite toujours ce pourquoi-là, souvent, ça va être l'amertume qui va s'installer dans mon cœur. L'homme a-tu le droit de contester avec Dieu? Pensez-vous qu'on a le droit de contester avec Dieu? Vous lirez Romains 9, 20 là-dessus. Hein, le vase d'argile, tu dois te contester. Seigneur, si le Seigneur nous donnerait ce qu'on mérite, qu'est-ce qu'on aurait? La mort. Salaire du péché? Mort. Fait que, allons pas dire, Seigneur, donne-moi ce que je mérite. Là, ça ira pas bien. On ira pas bien. On mériterait toute la mort, hein? Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas s'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Vous savez, l'amertume qui est venue dans le cœur, ça peut nous empêcher de faire des prières qui sont basées sur le plan de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit pour nous guider dans nos prières. Avant de crier, Seigneur, pourquoi, là? Rappelons-nous, il faut demander l'aide de l'Esprit pour formuler nos prières convenablement. Que devrait demander une personne qui souffre d'un cancer? Vous avez cancer, le docteur dit, vous avez cancer. C'est quoi la première prière qu'on devrait faire? Seigneur, guéris-moi rapidement de ce cancer. Ou, Seigneur, comment je pourrais glorifier ton nom à l'hôpital? À travers cette maladie-là. Hein? Peut-être que justement, si j'étais à l'hôpital pour quelques semaines, Dieu me plaçait là parce qu'il y a quelqu'un qui avait besoin d'entendre la parole de Dieu. Il dit, ben, oui, j'embarque une petite escousse à l'hôpital. Fait que ces personnes-là vont être bonnes pour entendre. Moi, je prie, Seigneur, sors-moi de l'hôpital au plus rapide. Mais c'est peut-être pas le plan de Dieu. C'est peut-être pas le plan de Dieu. Satan a dit à Dieu, au sujet de Job, c'est sûr que Job, il t'aime. Il t'aime parce que tu te bénis tout le temps. Tu lui as tout donné. Il a la santé, il a des beaux enfants, il a de la richesse. Enlève-lui ça. Tu vas voir qu'il va te maudire en pleine face. Peut-être qu'il faut répondre à Satan aussi qu'on est à l'hôpital, que ça va mal, qu'on a... C'est peut-être ça. On ne sait pas. On ne sait pas. Faut faire attention. Quel genre de prière le père du fils prodigue aurait dû demander? On connaît l'histoire du fils prodigue. Il a demandé l'argent à son père. « Donne-moi ma fortune, papa. Donne-moi mon héritage. » Et là, il est parti. Tout était gaspillé, ça, avec les bords, on va dire. Il s'est retrouvé dans une porcherie. Le père, quelle sorte de prière qu'il aurait dû faire? « Seigneur, ramène mon fils rapidement à la maison. Hé, ramène-le vite. » Ou bien, on va dire, « Seigneur, permets qu'il se garde au fond du baril. Qu'il garde en porcherie. » C'est quelle prière qu'il aurait dû faire? C'est quoi qui a ramené le fils à la maison? C'est qu'il était dans la porcherie, au fond du baril. Il y a-tu bien des pères et des mères qui prient pour que leurs enfants y aillent au fond du baril? On ne fait pas ça, mais des fois, ça peut être plein de Dieu. Dans cette histoire-là, c'était plein de Dieu. Il a compris quand il était rendu dans le fond du baril. Je ne sais pas, l'histoire, elle ne dit pas, mais le fils aîné, il y avait un fils aîné, peut-être qu'après ça, lui tout, il était à porcherie. Je ne sais pas. Ça lui aurait fait du bien, je pense. Une petite visite, là, pour un petit bout de temps. Lui, il se sentait, hein, le bonhomme. Une dernière pour les prières de l'esprit. Que devrait demander un prisonnier persécuté? Seigneur, sors-moi de la prison au plus vite. Ça va mal ici, ça va mal. Ou ben non, Seigneur, donne-moi de la persévérance dans cette captivité, Seigneur, pour ta gloire se manifeste dans la prison. Quand je lisais ça, je regardais là-dessus, je pensais à Corrie ten Boom. Et dans le temps de la guerre, elle était dans un camp de concentration, une grosse bâtisse, toutes les femmes qui étaient dedans. Il y a plusieurs camps pour les femmes, là. Priait Seigneur, et Seigneur l'aidait, Corrie ten Boom. Il lui a envoyé des poux. Il dit, quand je vais t'envoyer des poux dans ton dortoir, ça va t'aider. Envoyer des poux, Seigneur, ça va m'aider. Eh oui, elle se faisait manger par les poux. Les femmes qui étaient là se faisaient manger par les poux. Les autres dortoirs n'avaient pas de poux. Mais il y avait des messieurs qui allaient dans les dortoirs, par exemple. Et là, les madames, ils y goûtaient. Ils y goûtaient. Tandis que les autres, les soldats, ils n'allaient pas dans ce dortoir-là. Ils ne voulaient pas avoir des poux. Le Seigneur dit, je t'ai protégé. Je t'ai protégé. Vous, des fois, on a des problèmes. Le Seigneur dit, bien, ton problème, il te protège. Ça vous arrive-tu de penser des fois, pourquoi ce problème-là? Mais les poux sont en train de te protéger. Hein? On n'a pas besoin de tout comprendre. Encore là, pas aussi. On n'a pas besoin de tout comprendre. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 13, 9, notre connaissance est partielle. On va toujours connaître partiellement. Il suffit d'avoir confiance en Dieu, dans son plein qui est parfait. Parfois, on attend des non-croyants blâmer Dieu quand quelque chose de mal leur arrive. Lorsqu'il arrive une catastrophe, soudain, ils se mettent à croire à l'existence de Dieu. Mais c'est de ta faute, Seigneur. Mais ils ne disent pas de même. Ils disent avec des blasphèmes, des affaires de même. Ils blâment Dieu. Hein? Vous l'avez sûrement entendu ça, hein? En travaillant, des gens qui se mettent à critiquer, mais ne croient pas en Dieu. Mais quand il arrive quelque chose qui ne va pas, c'est Dieu. Comme chrétien, on n'est pas appelé à blâmer le Seigneur, mais à lui faire confiance. Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est ça qui devrait être notre lèvre. L'Éternel nous a donné ce qu'on a, tout ce qu'on a vient de Dieu. Si l'Éternel veut le reprendre pour un certain temps, c'est lui qui contrôle. Juges, chapitre 6, versets 12 et 13. Hein, c'est écrit, mon juste vivra par la foi. C'est le même qu'on est appelé à vivre. ça nous empêcherait d'avoir beaucoup de pourquoi. Jeux 6, versets 12 et 13. L'ange de l'Éternel lui apparut. Il lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, » et regardez le petit mot du message, « Pourquoi? Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont les prodiges, ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? » Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Gédéon dit, « Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous arrive? » Il est en train de remettre en question la présence de Dieu parmi eux. C'est triste, hein? Il est en train de remettre en question la présence de Dieu dans leur misère. Gédéon avait entendu parler des grandes œuvres de Dieu dans le passé. Mais pourquoi il ne fait pas ça pareil aujourd'hui? Hein? Il en a fait dans le temps. Pourquoi il ne fait pas pareil pour nous autres? Sam, on le mériterait. Pourquoi il ne fait pas pour nous autres? Gédéon pensait que le problème, il venait de Dieu. Le problème vient de Dieu. Il dit, l'Éternel nous a abandonnés. Et puis là, on est tout seul. L'Éternel nous a abandonnés. C'est le problème, il vient de Dieu. Mais en réalité, c'est la nation d'Israël qui avait abandonné Dieu. Voyez-vous, comment que des fois nos émotions peuvent nous amener vraiment à mal comprendre. C'est la nation d'Israël qui avait abandonné. Vous lirez le texte de la loi. Il était rendu toutes sortes de faux dieux. Dieu ne l'avait jamais abandonné, Israël. Isaïe 49, 15 nous dit, une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Dieu lui a fait la promesse qu'il ne s'oubliera jamais. Dans cette conversation que Job et que Gédéon a dit, qu'avait avec Dieu, les experts dans la parole de Dieu, ils appellent ça, je vous dis parce que c'est bon de se rappeler ça, ils appellent ça une théophanie. C'est dans le sens que Jésus, il vient parler sur une forme d'ange. Des fois, moi, c'est dans l'Apocalypse, différentes choses. Si jamais ça vient que vous arrivez, vous comprenez ça, pourquoi c'est le même, là. Ils appellent ça une théophanie. Donc, on voit que malgré le manque de foi de Gédéon, Dieu ne s'impose pas à Gédéon. Il ne va pas le brusquer. Autrement dit, pourquoi tu ne comprends pas? Tu devais la tête dure. C'est Dieu qui n'a pas agi de même avec Gédéon. Il n'a pas brossé et dit, c'est le temps que tu comprennes, mon petit gars, là. Mais Dieu, il n'a pas agi de même. Puis il n'agit pas de même non plus avec nous autres. Mais il l'a conduit à comprendre que dans le futur, Dieu avait préparé un bon plan pour les autres, pour lui et son peuple. Il y avait des projets de paix et non de malheur pour les autres. Il a fait comprendre ça tranquillement. C'est une histoire qui dure longtemps, je ne peux pas tout résumer ça. Là. L'histoire de Gédéon nous rappelle la fidélité de Dieu. Il est prêt à utiliser des personnes qui placent leur foi en lui. Si on met notre foi en lui, Dieu va nous utiliser. Gédéon, un homme qui douta de ses capacités, mais que Dieu a utilisé. Il a parlé à son cœur, et Dieu l'a utilisé. Une fois qu'il s'est engagé dans l'obéissance, lui et son peuple ont été délivrés. C'est vraiment une belle histoire, Gédéon. Je vous invite à la relire. Quelqu'un a mis sa confiance en Dieu et qui obéit à Dieu, il a délivré. Et c'est le même des fois, nous autres aussi, on se pose des questions, mais quand on obéit à Dieu, c'est là que la délivrance vient. Il faut écouter que le Seigneur nous parle. Jésus a dit à Israël, « Combien d'Israël, Israël, combien de fois j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins? » Et il dit, « Vous n'avez pas voulu. » On disait mercredi lors de l'étude, et l'homme aussi a sa responsabilité dans ça. On appelle ça le libre arbitre. Dieu, il ne peut pas aller contre notre volonté. Mais si on dit oui, ah ben là, ça va changer. Ça va changer. Lorsque nos prières semblent rester sans réponse, Satan veut nous que nous doutions de l'amour de Dieu, qu'on remette en question ses promesses. C'est ça son but. Il nous insiste à nous demander, si Dieu nous aime, si Dieu t'aime, pourquoi tu souffres de même? Hein? Pourquoi tu as tant de problèmes si Dieu t'aime? C'est alors que nous devons tenir ferme dans la vérité de la parole de Dieu. Il faut aller puiser dans la vérité qui se trouve dans la parole de Dieu. Jésus a dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours et ça jusqu'à la fin du monde. » Dieu ne nous abandonne pas. Il faut puiser la vérité dans la parole de Dieu. Puis là, on devrait reformuler notre question « Pourquoi? » La reformuler et demander, « Puisque tu m'aimes, Seigneur, pourquoi cela t'est arrivé? » Hein, si on montrait ça, on dit « Pourquoi? Pourquoi? » Puisque tu m'aimes, Seigneur, pourquoi cette chose-là est arrivée? C'est quoi que je vais apprendre dans cette épreuve-là? Y a-t-il une opportunité, Seigneur, que tu veux que je saisisse? Ça irait beaucoup mieux qu'avoir un pourquoi accusateur. Philippiens 4:6, son dernier verset. On va du stock à se rappeler, hein? Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Vous savez, on s'énerve bien, bien souvent pour rien. Je le répète avant de terminer. On pose souvent des questions, pourquoi, puis on en pose parce qu'on s'énerve pour rien. Il y a un sondage qui dit que 89,6% de nos peurs, de nos questions, nos interrogations, il n'y a jamais, ça ne s'arrive jamais. On a peur 89,6% pour rien. Alors, ça va arriver, le gouvernement, là, ça va être la guerre, une sorte d'affaire de même. Mais il y a 89,6%, comme on peut dire 90% de nos inquiétudes qui n'arrivent jamais. Voyez-vous comment on s'énerve pour rien? 90% des fois qu'on s'énerve pour ça. Marthe, pourquoi t'inquiètes-tu comme ça? Hein? Ce n'est pas dans mon message, hein? Mais vous le connaissez. Hein? Pourquoi tu t'inquiètes demain? L'inquiétude consomme notre énergie et nous empêche de servir Dieu et d'aimer la vie. On pourrait profiter de la vie que Dieu nous donne, mais on s'énerve tellement qu'on passe à côté de tout ce que Dieu voulait nous donner. Mieux vaut prier que de s'agiter. Rappelons-nous ça. Mieux vaut prier que de s'agiter. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.